Chapitre 77. Ils étaient allés au bout, remontant jusqu'aux racines du clan grâce aux confessions de Marc Griffon. Au bastion, l'étage des gardés à vue était en ébullition. Les membres du groupe tombaient comme les quilles d'un magnifique strike au bowling. Franck jaillit de sa salle d'interrogatoire avec la chemise chiffonnée et à moitié sortie de son pantalon. 6 heures qu'il était là-dedans avec Géco, les yeux explosés par les néons, les murs trop blancs, à acculer Michel Hortmann et son fichu avocat à 300 € de l'heure. Il se frotta le visage avec vigueur, jeta un œil à sa montre, minuit passé. Il se décala de 3 boxes. Par la fenêtre, il vit Audra et Nicolas qui auditionnaient Caroline Lamandier, alias Caro, la fausse Anne Chougrani. La jeune femme était avachie sur sa chaise, dans la position de celle à qui on a asséné le coup de grâce. Elle avait été interpellée dans un appartement proche d'ateliers d'artistes à Pantin. Charcot fit un signe à Nicolas et ensemble, ils se rendirent dans la salle de pause. Le commandant de police s'effondra sur le fauteuil tandis que son collègue faisait chauffer la cafetière ou traînait un fond de liquide couleur charbon.
« L'immortalité, c'est beaucoup moins gai que quand tu vas passer le reste de tes jours en prison. Ce type bourré de botox et qui s'injecte je ne sais pas quoi tous les matins au petit déjeuner, continue à jouer au con, à nier en bloc. Mais avec ce qu'on lui a mis sous le nez et le témoignage de Griffon, on finira par le coincer. Juste une question de temps. »
Il soupira longuement, comme s'il avait retenu son souffle une minute entière.
« Je n'en reviens pas. C'est bientôt fini. Tu sais ce que je vais faire en rentrant ? Me prendre un bain. Pas une douche, mais un bain, pour me laver en profondeur de toute cette crasse. Ouais, je vais me frotter d'eau brûlante jusqu'à virer rouge écrevisse. »
Nicolas se vautra dans le fauteuil voisin. Les deux hommes étaient là, débraillés, à fixer le mur en face d'eux.
« Je ne vous embêterai plus longtemps, » fit Nicolas. « D'ici 2 ou 3 jours, je pourrai remonter sur ma péniche. Je sais où récupérer un groupe électrogène en attendant le rétablissement de l'électricité. Ça va faire un peu de boucan, mais il n'y aura personne pour l'entendre. »«
Ouais, c'est comme tu veux. Saleté de cru, hein ?»
Nicolas ne dit rien. L'enquête à peine terminée, il allait affronter d'autres problèmes plus matériels.
« En parlant de cru, » poursuivit Charcot, « tu sais comment ça marche leur boîte à Oslo, Predict Inc., ce truc censé prédire l'avenir ?»«
Je ne sais pas si j'ai envie de le savoir. » »«
Grosso modo, ils créent des bases de données gigantesques alimentées par le Big Data et croisent ces milliards de données avec des événements du passé, des phénomènes sociaux ou des modèles afin d'en retirer les points communs. Des algorithmes utilisent aussi les comportements des utilisateurs d'Internet, combinent tout ça avec les pages Wikipédia, les messages de Twitter, les recherches Google, tout ce que tu veux, pour prévoir et annoncer les événements planétaires à venir.
Désolé, c'est du baratin pour moi.
Non, c'est au contraire très simple. Et si moi j'ai compris... Pour Cuba, par exemple, dès les tout premiers symptômes, quelques personnes se sont mises à taper « diarrhée »,« gastro », »,« vomissement » dans Google. Les algorithmes se sont rendus compte, bien avant les médecins, que ces mots-clés provenaient de la même région de Cuba et à des moments très proches. En comparant avec le passé de l'île, les robots ont immédiatement identifié la maladie « choléra ». C'est de cette façon que la prédiction a pu être réalisée 1 ou 2 jours avant que les services de santé annoncent officiellement la réapparition de la bactérie et déclarent un premier cas.
La machine à café sifflait. Nicolas se releva et alla se servir.
Heureusement que ça a foiré pour la crue. Austerlitz n'a jamais eu les pieds dans l'eau. Ces saletés de machines ne sont pas encore prêtes de nous faire la peau.
Elles sont pourtant présentes, qu'on le veuille ou non. Google et compagnie façonnent notre monde. Il y a un truc que j'ai compris avec Fabrice Chevalier, et en ce sens, il avait raison. Si tu cherches à cacher un cadavre, alors cache-le en page 2 des résultats d'une requête Google.
C'est quoi ce baratin ?
que c'est bien cette entreprise qui décide de la façon dont nous voyons le monde. Elle sait que nous regardons seulement les premières lignes des résultats de recherche. C'est une image. Mais la caverne de Platon, tu te rappelles? On nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer. Et si on n'a pas la curiosité d'aller fouiller plus loin, on est prisonnier du système.
Bélanger revint avec sa tasse. Il resta debout et s'appuya contre le mur.
Dans toute l'horreur de ses actes, poursuivit Charcot, Chevalier aura au moins réussi à nous ouvrir les yeux. Sans lui, finalement, ces salopards auraient encore pu agir longtemps.
Ils se turent, fatigués. Ils tenaient la plupart de leurs réponses, mais il leur restait encore des zones d'ombre à éclairer. Ce qu'était devenu le cadavre d'Émilie Robin, la manière dont Hortmann et de Monchaux s'étaient rencontrés, la façon dont l'ignoble idée d'utiliser des femmes comme porteuses d'une potentielle immortalité avait germé et s'était progressivement mise en place. Restait aussi à définir le cheminement de Chevalier au sein du clan. Acculé, confronté à ses responsabilités, Michel Hortmann finirait par se mettre à table. En recoupant les informations des diverses gardes à vue, les flics avaient conclu que le groupe des phalanges coupées existait depuis 2 ans et demi et avait été composé de 7 membres, 4 femmes et 3 hommes. Parmi eux, de Monchaux, l'une de ses connaissances, derrière la caméra, et finalement Chevalier, arrivé plus tard, sans compter Hortmann, la grande tête pensante, et Griffon, l'opérateur. Caroline Lamandier, pas plus que les 3 autres femmes, ne connaissait personnellement Hortmann, et jamais son nom n'avait été prononcé. Il consistait en une ombre qui rôdait parfois derrière un masque de fox, une présence anonyme qui venait assister aux inséminations et aux avortements. De Monchaux et son complice, ainsi que durant une certaine période Chevalier, étaient à la tête du clan, un groupe de fêlés qui fréquentaient l'hydre, prêts à s'amputer d'un doigt et à subir la pire demi-heure de leur vie. Viol, torture, pour souder des liens entre eux et se donner l'illusion de remplir une mission. Lorsqu'on emmenait ces femmes chez Griffon, on leur bandait les yeux. Du médecin, elles ne connaissaient que le visage et les intentions. Quelques heures auparavant, Caro avait expliqué sa fascination quand elle avait imaginé le petit être génétiquement modifié se développer dans son ventre. Sa volonté de « fucker la société », selon ses propres termes, de tenter l'expérience ultime inédite du biohacking, la liberté des corps, l'accélération du progrès scientifique. Chacune de ces femmes pensait qu'elle serait celle de laquelle l'immortalité jaillirait. Elle avait aussi raconté que de Monchaux, en plus d'être un amant bestial, le doigt féminin dont le bocal lui appartenait, avait répandu la terreur. À travers des mises en scène perverses, il les avait contraintes à assister au massacre des traîtres. Fabrice Chevalier avec le chien, Émilie Robin dans la maison de Bretagne. « Pour souder l'unité du clan », avait-il affirmé, « si l'un d'entre nous coule, nous coulons tous ». Et ils allaient tous couler. Ces irrécupérables allaient croupir derrière des barreaux, enfin, pour ceux qui n'étaient pas déjà morts. Quant au petit Lucas, c'était sans doute le plus triste dans cette histoire. Charcot n'arrêtait pas d'y penser. Le pauvre gamin allait faire l'objet de toutes les curiosités, de toutes les convoitises. On l'étudierait comme un animal de foire. Quel serait son avenir ? On lui avait tailladé l'ADN, ce trésor bâti et transmis par des générations de survivants depuis l'aube des temps. Développerait-il des maladies collatérales dans les années à venir, ou au contraire, traverserait-il les époques avec la force et la vigueur du chêne? Apprendrait-il un jour la vérité sur ses origines, sur Achille, Hercule, Maggie et son père dévoré par les diables? Quel vertige de penser que dans 2 siècles ou plus, Lucas serait peut-être encore là, sur cette terre, qui ne ressemblerait plus à celle d'aujourd'hui. Charcot ne parvenait pas à se le figurer, et en réalité, il n'arrivait simplement pas à y croire. C'était trop,
beaucoup trop pour sa pauvre condition de mortel, lui le flic, depuis presque 30 ans, et père de 2 enfants. Il se leva en grimaçant. Pas de doute, lui ne serait pas immortel. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur une table ronde où avaient séché des traces de café. Dessus était écrit « Le manifeste de l'ange du futur ».
Au fait, on a trouvé ça planqué entre le drap housse et le matelas à la cave où l'ange retenait ses prisonniers. Son manifeste, il tient sur une feuille. Peut-être qu'il comptait nous l'envoyer personnellement, en plus de l'afficher sur son site. Je n'en sais rien.
Nicolas soupesa l'enveloppe.
Une feuille, c'est tout, tu déconnes.
Tu verras en ouvrant, c'est une encre spéciale. Il faut frotter avec ton doigt pour la chauffer. Et le message apparaît comme par enchantement. Son ultime tour de passe-passe.
Charco s'éloigna, levant un bras lourd.
Quand je pense qu'on ne m'a toujours pas dit qui avait dessiné ce fichu requin. Mais je résoudrai l'affaire, je te le jure.
Sans se retourner, il s'enfonça dans le couloir. Nicolas regarda s'éloigner son commandant de cette démarche qu'il connaissait par cœur. Le même pas caractéristique, année après année, et il se dit que dans un mois, dans un an, Charco s'éloignerait de la même façon, dans un couloir identique, le dos plus arrondi, comme si sa croix pesait davantage. Charco mourrait ici. Les requins ne quittent jamais leur océan. Une fois dans son bureau, Nicolas observa l'enveloppe avec curiosité. Elle contenait le document que l'ange aurait dû livrer à des millions de personnes. L'objet de sa colère, de son effroyable croisade contre notre monde. Non pas des centaines de pages, mais une simple feuille. Il trembla rien qu'à l'idée de son contenu. Il se rappela du chien difforme de Demonchaud, des monstres organiques de Griffon, et n'osa imaginer ce que Mao ou Hitler auraient accompli armé de tels pouvoirs scientifiques. Avant d'ouvrir l'enveloppe, il se rendit à la fenêtre, observa les touches de peinture orangée de la cité. Ce tableau, c'était son quotidien, sa vie. Par sa position, il dominait la ville, mais c'était plutôt elle qui le dominait. Elle le poussait vers le haut pour que la chute soit plus rude. La ville était perverse. Elle abritait et choyait les monstres. Combien d'entre eux se repaissaient dans ses artères poisseuses? Combien de Demonchaud, de Hortmann, de chevaliers, de futurs chauffeurs de camions fous se cachaient au-delà de son regard? Combien d'individus, prêts à basculer, à embraser définitivement le monde avec des bombes, des virus, des kalachnikovs et des croyances délirantes qui les amenaient à penser que détruire le tétrapile de Palmyre, c'était bien. Nicolas avait longtemps espéré un avenir meilleur, mais cette enquête le confortait dans ses convictions. Ça allait être compliqué, très compliqué. L'homme, dans toute sa démesure d'homme, pouvait bâtir les églises le matin et les détruire le soir. Il tenait le feu prométhéen entre ses mains. Le policier ferma les yeux et songea à l'espoir, à la lumière, et l'image d'Audra lui vint. Il se rendit compte pour la première fois qu'il distinguait son image à elle avant celle de Camille. Un jour, cette autre image ne serait plus qu'une lucarne de lumière pâle au fond de sa tête. Un jour, peut-être, il irait mieux. Et si lui pouvait aller mieux, alors chaque individu pourrait aussi se sentir mieux dans ce monde malade. Et peut-être, au final, le monde finirait-il par aller mieux. L'espoir, la lumière, des mots d'une force céleste, avec l'un, on imaginait l'avenir, avec l'autre, on le bâtissait. Il était temps de découvrir le manifeste à présent. Ce document qu'auraient dû lire des millions de gens tandis que Bertrand et Florence se noyaient sous leurs yeux. La gorge serrée, il ouvrit délicatement le haut de l'enveloppe et déplia la feuille. Elle portait en plein centre un rectangle noir.
Cher lecteur, c'est Franck Tillier qui vous parle. Vous voici à la fin de cette histoire, et je sais que vous voulez savoir ce que contient le manifeste de l'ange du futur. Son unique phrase est disponible, juste après ma petite intervention. S'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Ce serait entrer dans son jeu et, quelque part, participer à la sombre entreprise qu'il a essayé de mettre en place. Stoppez votre lecture et passez à autre chose. S'il vous plaît. J'espère que vous m'écouterez.
Nicolas frotta doucement du bout de l'index. Et le message lui apparut. « Mon manifeste, c'est vous. »